carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Quels sont les doutes, les questions et les points de vue des académiciens sur la création d'aujourd'hui ? Comment se situent-ils ? Désireux de faire partager au public du monde de l'art le fruit de leurs réflexions, le président de l'Académie des Beaux-Arts, François-Bernard Michel, a organisé une journée d'ouverture à l'Académie des Beaux-Arts, pendant laquelle 5 de ses confrères ont pris la parole pour lancer le débat. Canal Académie vous propose d'écouter la première de ses interventions et de la suivre en lançant le diaporama qui l'accompagne. Dans cette émission, vous pouvez entendre l'intervention du sculpteur Claude Abeille, accompagné de la présentation de l'académicien et des remarques de Guy Boyer, rédacteur en chef de Connaissance des Arts, modérateur des débats, dans le cadre d'une journée d'ouverture à l'Académie des Beaux-Arts, avec des acteurs privés et institutionnels du monde de l'art. C'était une journée à l'Académie, le 28 novembre 2012. Retrouvons Guy Boyer et Claude Abeille en grande salle des séances à l'Institut de France. Le texte de M. Claude Abeille s'intitule « L'homme qui marche ».
Je voudrais commencer et lancer cet après-midi de débat par une petite introduction pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, rappelant la création et le lieu de débat qu'est l'Académie des Beaux-Arts, et enchaîner ensuite sur la création d'aujourd'hui, puis sur ces 5 interventions que nous entendrons successivement. Alors, depuis sa création par Charles Lebrun en 1648, pour démarquer ses membres de la corporation de Saint-Luc, qui réunissait et contrôlait depuis le Moyen-Âge peintres, sculpteurs et imprimeurs, l'Académie royale de peinture et de sculpture a été en quelque sorte, excusez-moi l'adjectif, une organisation militante. Militante puisqu'elle était à l'origine de l'émancipation de l'artiste qui était enfin distingué du titre simple d'artisan. Cette organisation militante était aussi un lieu de débat. Suivant l'exemple de l'Académie royale de peinture et de sculpture, l'Académie royale de musique a vu le jour en 1669 et 2 ans plus tard, celle d'architecture. Et il faudra attendre 1803 pour voir la véritable naissance de l'Académie des Beaux-Arts dont la vocation, et je vous cite, est de contribuer à la défense, l'histoire, l'illustration et le développement du patrimoine artistique de la France. Qui dit défense, dit contradiction et débat. Le débat est véritablement dans les gènes de cette académie. Revenons très longtemps en arrière. Lors de la réunion académique du 9 janvier 1666, Colbert a suggéré aux académiciens de tous les mois, faire l'explication d'un des meilleurs tableaux du cabinet du roi par le professeur en exercice en présence de l'Assemblée. Ces réunions avaient différents buts, bien évidemment. D'abord, résoudre un des problèmes qui se posaient aux artistes dans l'exécution de leurs tableaux ou de leurs sculptures. Mais l'organisation était très stricte. Un académicien était chargé de préparer une présentation de l'œuvre exposée devant ses confrères et des étudiants pouvaient y assister. Ne voyez aucun parallèle avec l'Assemblée d'aujourd'hui, bien évidemment. Cette ouverture était suivie d'un débat, d'une discussio, et vous savez que discussio vient du mot scutio, secoué. Donc vous voyez qu'un débat est forcément animé. Le secrétaire prenait en note cette présentation orale et tout le débat qui suivait. D'où les textes écrits que nous avons encore aujourd'hui de ces conférences et que l'on peut lire grâce au travail mené depuis des années par Jacqueline Liechtenstein et Christian Michel, édition intégrale ayant été publiée par vos voisins, l'École nationale supérieure des Beaux-Arts, qui regarde donc tout ce qui s'est fait dans cette auguste maison avec un œil bienveillant. Nous y reviendrons tout à l'heure. Si l'année 1667 a été marquée par les conférences de Félibien, 68, et j'ai pris cet exemple précisément, est surtout l'année où Philippe de Champaigne a consacré une conférence aux tableaux de Poussin, Eliezer et Rebecca. Lebrun, il soutient Poussin contre ses opposants qui lui reprochent d'avoir négligé la vérité historique. En effet, dans ce tableau d'Eliezer et Rebecca, il n'aurait pas fait figurer les 10 fameux chameaux qui figurent dans l'épisode biblique. Ces chameaux, argumente Lebrun, auraient été un élément disgracieux, en fait, il aurait perturbé l'attention du regardeur, du spectateur devant le tableau. Ce qui nous paraît aujourd'hui comme une anecdote est en fait crucial. C'est l'idée même de principe de convenance et celui de l'unité d'action. Donc, sous ce détail, sous ce débat qui a été très enflammé et qui semble un détail d'avoir représenté ou non 10 chameaux dans un tableau, en fait, on voit bien que là derrière, il y avait des questions fondamentales, lieu de ce débat. À l'époque de l'autonomisation de l'artiste, c'est le dessin qui va être aussi au cœur des débats dans cette maison. Et l'autre grande bataille, nous en parlions ce matin, c'est la bataille des poussinistes et des rubinistes, à savoir les partisans du dessin contre les partisans de la couleur. Et Roger de Pile, bien évidemment, va exalter la couleur comme étant le véritable espace de création de l'artiste. Depuis 1803, notre Académie des Beaux-Arts est donc l'héritière de cette tradition de débat artistique et donc le lieu idéal pour l'échange des idées. Passons rapidement les siècles, les plus proches de nous, c'est grâce à vous, le professeur François-Bernard Michel, que l'Académie des Beaux-Arts a redonné vie à ce projet de dictionnaire de l'Académie et que l'on a débattu ici même sur le dessin avec des interventions de Claude Abeille, de Guy de Rougemont ou d'Arnaud d'Autrive. Le deuxième débat avait été sur la forme et le troisième sur la transversalité. Et puis, en 2010, autre débat sur le marché de l'art. Si l'une des missions de l'Académie des Beaux-Arts est donc le soutien à la création, on ne peut pas dire pour autant que les lieux qu'elle gère sont tous dirigés vers la création actuelle. La bibliothèque Marmottan à Boulogne, et je le rappelle pour les gens qui ne connaissent pas cette vénérable maison, donc la bibliothèque Marmottan de Boulogne, la Villa Effrussi de Rothschild à Saint-Jean-Cap-Ferrat, ou même la fondation Claude Monet à Giverny, sont d'abord des lieux de patrimoine. Au musée Jacquemart-André à Paris, par exemple, Frangelico et Canaletto sont les vedettes des expositions, mais plutôt tournées vers le passé, plus que sur l'exposition très contemporaine. Il a fallu plutôt regarder du côté du musée Marmottan-Monet pour se souvenir qu'il y a eu des expositions non pas liées à l'Empire ou à l'impressionnisme, qui sont les deux sujets forts du lieu, mais à la création d'aujourd'hui, avec des expositions que notre regretté ami Jacques Tadéhi avait monté autour des académiciens, la dernière en date étant sur Lucien Clerc et Yann Arthus-Bertrand en 2009. Et puis, nous en parlions là aussi ce matin, n'oublions pas que l'Académie des Beaux-Arts dispose de cette salle formidable sur le quai, avec une visibilité, où ce sont plutôt des expositions de photographie qui sont montées, grâce au lauréat du prix photo Marc Ladré de l'Archarrière, dont nous parlions encore ce matin. Et puis, le tour d'horizon de l'activité de l'Académie des Beaux-Arts et la création d'aujourd'hui serait incomplet sans parler des prix, des concours, des aides à des projets, des financements à des résidences d'artistes, et c'est sans doute la partie quand même la plus visible et la plus connue de votre activité, avec le prix de dessin Pierre-David Weill, le Grand Prix d'architecture, le concours à la Villa Velázquez et d'autres. Pourtant, et c'est là que le bât blesse, mon constat est tout de même que l'Académie des Beaux-Arts a oublié une certaine création actuelle. Celle, pour ne citer que quelques noms très médiatiques, des Fabrice Hibert et des Gerhard Richter pour les arts plastiques, celle de Thomas Heatherwick, le fameux héros de Shanghai, ou de Sanaa, les architectes qui construisent le Louvre-Lens pour l'architecture, celle des Bécher et de Wolfgang Tillmans pour la photographie, mais je ne veux pas faire la liste discipline par discipline. En fait, tous ces artistes, bien qu'ils soient reconnus, on pourrait dire, et on peut les critiquer, pour leur accès de médiatisation, les provocations que certains vont faire, et même de la vacuité de certaines œuvres, et nous allons y revenir pendant les discussions de cet après-midi. Mais je pense qu'on ne peut pas rejeter d'un seul revers de manche cette création internationalement reconnue et admirée. D'où l'idée de ce débat qui va nous permettre à la fois d'évoquer la grande tradition et l'enseignement classique dont nous parlions ce matin, avec un sourire, et aussi donc ces artistes qui font l'actualité de par le monde. Le sujet donc n'est pas anodin en cette journée d'ouverture au public de l'Académie des Beaux-Arts. L'art occupe une place grandissante dans nos journées, désormais plus largement ouverte aux loisirs, avec les RTT et autres récup que vous connaissez. Les musées connaissent une fréquentation exponentielle. Les expositions n'ont jamais été aussi nombreuses à Paris. On y voit de la peinture, de la sculpture, de la photographie, mais aussi, ne l'oublions pas, des installations, des vidéos, des performances, qui sont des arts qui se développent aujourd'hui. Ce sont de nouveaux moyens d'expression à côté des schémas traditionnels. Et d'autre part, notre regard sur la création s'est élargi grâce aux efforts des musées, des fondations et des galeries, qui n'hésitent pas à présenter des artistes venus d'horizons très lointains, tel l'indonésien Nogroho au Musée d'art moderne de la ville de Paris, ou même les artistes présentés pendant la triennale du Palais de Tokyo en avril dernier. Cet après-midi, donc, 5 débats vont être lancés. De Claude Abeille avec « L'homme qui marche », à Pierre Caron qui posera des questions mordantes comme « Hier encore, que faire ?» point d'interrogation, puisque c'est le titre de son intervention. Et ce seront, il faut vraiment les prendre comme des prises de position, des points de vue sur leur secteur d'activité. Je pense qu'ils vont vous parler avec la plus grande franchise de l'évolution actuelle de leur discipline. Ils vont parler de leur art, de leur conception de ce qu'une œuvre d'art. Et Dieu sait si pour un créateur, c'est important de savoir ce qu'est le but, l'objectif d'une œuvre d'art. Nous serons bien loin, bien évidemment, des réponses qu'auraient pu vous faire dans un même lieu les stars du moment comme, allons-y, prononçons des gros mots, comme Jeff Koons, qui nous aurait sans doute parlé de Marcel Duchamp, qui nous aurait parlé de la reproductibilité à l'infini d'une œuvre d'art, des liens artistes et collectionneurs et même du marché de l'art. Loin des réponses d'architecte Kop Himmelblau, qui aurait sans doute évoqué les notions de rupture, de table rase. Ce sont des notions que nous verrons plus dans les questions, à mon avis, que dans les propositions. Pourtant, il s'agira ici du corps humain, avec Claude Abeille, de l'innovation avec François-Bernard Mache, de l'architecture menacée d'éclatement de nombreuses professions avec François Chalin, de la banalité et de l'avènement du numérique avec Bernard Perrine, de la beauté d'hier et d'aujourd'hui avec Pierre Caron. 5 interventions qui susciteront chez vous certainement des réactions, des questionnements. Je vous demande simplement de garder ces questions pour la fin. Nous allons les écouter sagement, les uns après les autres, et cet après-midi, en fin d'après-midi, vous aurez la possibilité d'intervenir et de relancer le débat, ce qui est le fondement même de ce lieu, de l'Académie des Beaux-Arts. Alors, je donne la parole, si vous le voulez bien, à Claude Abeille, qui est ici à ma gauche, pour nous parler de cet homme qui marche.
Donc, pérennité de la sculpture, l'homme qui marche. Alors, depuis 50 ans, c'est-à-dire depuis la fin de la guerre et de ses atrocités, la question de l'art s'est posée au point que l'on s'est demandé si on pouvait encore, après tant de désastres, faire de la peinture, faire de la sculpture, si cela avait un sens et si ça n'était pas carrément scandaleux. Les mouvements artistiques qui se sont succédés dans cette période et jusqu'aujourd'hui témoignent dans leur diversité et on peut peut-être le dire dans leur incohérence, d'un trouble qui ne semble pas avoir cessé. C'est pourquoi, dans les discussions que nous avons entre nous, ici, à l'Académie des Beaux-Arts, mais aussi, bien sûr, à l'extérieur, nous avons coutume de nous interroger. Certes, c'est plutôt l'affaire des journalistes, des critiques d'art, des conservateurs de musées, des galeristes, des amateurs, de porter des jugements. Mais les artistes, eux aussi, quoique juges et partis, sont amenés à se situer dans le monde si mouvant de la création artistique, ou du moins à donner quelques raisons qui motivent la direction qu'a pris leur travail et leur engagement. Comme on m'a demandé de prendre la parole dans ce colloque, je le ferai comme sculpteur, dans la pensée que mon parcours n'est pas très différent de celui de beaucoup de mes confrères, et que je peux croire que dans une certaine mesure, je parle d'eux aussi. Je me suis trouvé au début de mon travail devant le choix à faire entre un art qui continuerait à essayer de rendre compte de la présence physique charnelle de l'homme et un autre art qui, revendiquant une absolue liberté, tentait de prolonger les découvertes de l'abstraction faites avant la guerre, celles de Kandinsky, Mondrian et d'autres artistes. Je me souviens encore par exemple des expositions organisées par la galerie Denise René et de l'admiration que j'éprouvais pour bien des œuvres exposées. Mais, d'un autre côté, j'étais conscient de ce que peut avoir d'arbitraire cette débauche de manipulation du langage plastique, à l'image des mouvements littéraires comme le structuralisme et autres remises en question de la langue, qui finalement mettaient entre parenthèses la question pourtant essentielle du sens. En contrepartie, je voyais bien la réalité très présente de l'œuvre de sculpteurs comme Giacometti, Germaine Richier, César, Robert Couturier, qui, n'ignorant rien des combats esthétiques du moment, affirmaient avec force la pérennité de la sculpture. J'avais à l'esprit la réponse de Giacometti à André Breton qui lui avait demandé « Que faites-vous en ce moment ?» Giacometti « Je fais des têtes. » André Breton « Mais tout le monde sait ce que c'est qu'une tête. » Giacometti « Oui, mais moi je ne sais pas. » Ce qui voulait dire « Qu'est-ce que l'homme ? Qu'est-ce que la nature ? Qui sommes-nous au juste ?» La peinture et la sculpture sont des langages indissolublement liés au mystère de la réalité. Toutefois, comme j'avais le sentiment personnel d'une certaine usure de la représentation anatomique habituelle du corps humain, je pensais me servir plutôt de ce qui le cache, l'exalte, l'exprime, c'est-à-dire me servir de l'enveloppe, du vêtement, de notre peau sociale. Ce parti, qui est toujours le mien, et qui a pu permettre à mes sculptures d'être un lointain écho des grands enthousiasmes textiles de la sculpture baroque, me permet aujourd'hui, en serrant de plus près le corps de l'homme, de m'interroger, comme Giacometti et Couturier, sur ce que nous voyons réellement de la réalité. En constatant la très grande continuité que nous offre l'histoire de la sculpture, montrant l'homme qui marche, c'est-à-dire l'homme en marche, c'est-à-dire l'homme en question, je vous propose une petite excursion au travers de quelques images que nous offrent musées et places publiques. Ceci devrait nous faire réfléchir et prendre nos distances avec cette manie contemporaine de privilégier les ruptures et les tables rases. Cette excursion dans le monde de la sculpture suit très vaguement un ordre historique. Elle est constituée de quelques thèmes comme la démarche, l'immobilité, le défilé, la cavalcade, qui expriment tous une sorte de réponse aux questions que nous nous posons toujours sur l'existence. Cette sculpture, qui est au Louvre, elle vient de Jordanie, a plus de 7000 ans. Elle est en plâtre et en filasse. C'est exactement la technique que j'emploie actuellement. Ce personnage pourrait avoir réalisé de nos jours. Nous voyons maintenant le prince de Lagash, Goudéa, 3000 ans avant Jésus-Christ. Il est enfermé dans la concentration spirituelle de la prière et aussi par l'évolution de son corps tendu comme un tronc d'arbre, ses pieds crispés comme des racines. Ici, nous sommes dans l'art assyrien, au 8e siècle avant notre ère. Le personnage représenté serait Gilgamesh, héros mythique qui vainquit les animaux. Les jambes de profil suggèrent la marche, tandis que le haut du corps fait face. Toujours en Assyrie, même époque, le roi Sargon porte en offrande un bouquetin. Le thème du porteur d'offrande va se perpétuer jusqu'à nos jours, même s'il a perdu sa signification religieuse. Voici le moscophore, art grec vers 570 avant Jésus-Christ. Il s'appelle Rhombos et porte un veau qu'il s'apprête à sacrifier à Athéna. Mais c'est aussi cette statue dite de toute beauté qui est offerte à la déesse. Picasso ne pouvait manquer de prendre lui aussi ce thème antique pour faire en 1943 cette statue pour la ville de Valoris. On retrouve ici la démarche caractéristique de l'art égyptien. Le dieu Horus va au-devant du roi qu'il va asperger d'eau selon le rituel pharaonique, mouvement des bras accordé aux jambes bien plantées. Encore en Égypte, voici le gouverneur d'Assiout, mouvement et permanence. En effet, les pieds restent fixés au sol. Le corps reste en arrière, mais les jambes sont en marche. Le sculpteur nous dit qu'il va marcher, et non qu'il marche. Ce couple en bois d'acacia est très abîmé, mais ce qu'il en reste vaut la peine de le montrer. C'est ici, toujours au Louvre, Raerka, inspecteur des scribes, et sa femme, Merseanc. Lui marche résolument, mais non sa femme, ce qui crée cette indécision merveilleuse de l'art égyptien dans l'expression du mouvement que l'on retrouvera chez Rodin et jusqu'à nos jours. Autre thème, le scribe accroupi, ancien empire, vers 2490 avant Jésus-Christ. Il est tout entier, malgré sa posture, tourné vers l'extérieur, attendant le texte qu'il devra écrire. Au contraire, le prophète jaïniste du musée Guimet, sculpté 3500 ans après le scribe, lui ressemble un peu, mais il est tourné dans une contemplation tout intérieure. Les formes se ressemblent, mais pas la signification. Voici un kouros du Louvre, art grec à ses débuts, encore un peu égyptien. Il marche à la conquête de la philosophie qui continue toujours à nous parler et à structurer notre pensée. Encore au Louvre, au milieu de la foule, la Corée du temple d'Héra à Samos, immobilité qui nous rappelle celle de Goudéa, cylindre du corps situé par les plis du vêtement et qui annonce les statues-colonnes du portail occidental de Chartres. Sans aucun vêtement, voilà l'Apollon du Pirée, le plus ancien bronze grec connu, 6e siècle avant, léger mouvement des pieds et les mains prêtes à porter une coupe et un arc. L'orige de Delphes, il vient de gagner une course de chars, il se concentre sur sa victoire, ne sachant pas qu'il ressemble beaucoup au portail de Chartres 1500 ans plus tard. Voici le portail qui se passe de commentaires, sculpté avant 1158. Les statues marchent, mais elles dansent aussi, comme ici, vers 1130 après Jésus-Christ, dans l'église abbatiale de Souillac, où Isaïe, pris d'un élan mystique, parvient à inscrire son enthousiasme dans la pierre. À Moissac, ce personnage semble se glisser en dansant dans l'architecture très marquée du portail méridional de l'église Saint-Pierre. Reposons-nous un peu avec l'Ève sculptée par Gisle Bertus à Autun, chef-d'œuvre sculpté vers 1120-1130. Elle ne marche pas, mais elle est belle quand même. Mais l'homme marche aussi à cheval. Et ici, c'est Marc Aurèle qui va d'un point à l'autre de l'Empire romain. Ce n'est pas le premier cavalier dans la sculpture, mais il est célèbre et va susciter beaucoup de chefs-d'œuvre. Le chevalier de Bamberg, encore tout imprégné du style gothique de Reims, et dont le vêtement plissé contraste avec la simplicité de la robe du cheval figée dans son immobilité. À Venise, vers 1480, Verrocchio nous offre le Colleone, monument équestre de Bartolomeo Colleoni, qui prend place avec le Gatta Melata de Padoue dans la longue série des cavalcades statuaires. Une parenthèse en hommage à la gravure, c'est Dürer qui grave ce chevalier extraordinaire armé contre le monde extérieur et contre le temps ou la mort, exprimé par un sablier. C'est en 1513, bientôt la guerre épouvantable de 30 ans. Le sculpteur César, notre contemporain, nous offre également un centaure, aussi déterminé que celui de ses prédécesseurs, non sans céder à une certaine pointe de dérision, fidèle à lui-même, mais surtout fidèle à la sculpture. Au Louvre, on voit cet autre centaure, dont les formes viennent de l'atelier grec d'Aphrodisios, reprise par les sculpteurs de Rome vers le deuxième siècle de notre ère. Et pour terminer avec les chevaux, le Bernin a fait cet extraordinaire morceau de marbre pour Louis XIV. Celui-ci restera réticent devant ce qui aujourd'hui suscite notre admiration. Autre thème, celui du défilé, qui retient les sculpteurs. Voici celui des Panathénées sur les murs du Parthénon, avec le mouvement contraire des jeunes filles et des hommes. Défilé des moines avec leurs capuchons portant la dépouille de Philippe Pau, sénéchal de Bourgogne, vers 1480. Défilé des bourgeois de Calais que Rodin rythme avec force, gestes et mouvements de bras, mais surtout par le jeu des jambes, prise dans une scénographie subtile et calculée, augmentée par un déséquilibre des aplombs. Expression par les jambes que nous retrouvons dans la Pietà dite Rondanini, que Michel-Ange, juste avant de mourir, s'acharne à refaire et à terminer. Mouvement des jambes dans la mort, ou peut-être dans l'agonie, c'est selon. Il est rare de voir une Pietà debout. Tout au contraire, le Milon de Crotone de Puget, vers 1680, nous montre ses jambes tétanisées par l'effort qu'il fait pour se dégager du tronc d'arbre dans lequel il s'est coincé la main et pouvoir échapper au lion qui le mord. Autre style, celui de Rude, qui nous montre le maréchal Ney, vers 1853, qui semble venir par son attitude du haut relief de la Marseillaise, mais qui ici se relève comme par un mouvement d'aspiration verticale. L'homme qui marche de Rodin renoue avec la démarche égyptienne, les talons fixés au sol, mais le sculpteur lui ajoute la tension musculaire et le déportement vers l'avant, qui accuse encore le prestige contradictoire de la sculpture qui dit le mouvement par l'immobilité de l'équilibre. Voici maintenant nos contemporains, hommage à la peinture et à celle du peintre Hélion, qui sort de chez lui avec son parapluie. Il a eu beaucoup d'ennuis parce qu'il était d'abord abstrait, il est redevenu figuratif, mais ça ne se fait pas. Giacometti, partagé entre ces figures étirées et figées, semble nous poser ici une question, qu'est-ce qu'une jambe ? Giacometti encore, élève de Bourdelle, lui-même élève de Rodin, se plaît à rendre hommage au passé en le reprenant à son compte et en lui donnant un sens nouveau. Où va-t-il, ce marcheur ? Encore un peintre, Arroyo, qui nous invite en 1985 à cette nuit espagnole, c'est le titre, où nous aurons plaisir à marcher un peu avec lui. Vautrouba, sculpteur autrichien, nous montre en 1952 cet homme marchant, puisant sa force dans les formes de l'architecture qui structure toutes ses sculptures, après les désastres, naturellement, de la guerre. Ici, la tauromachie de Germaine Richier, faite dans les années 50, expression de la condition tragique de l'homme qui marche la tête haute mais réduite à la forme de la pointe de l'arme des picadors et qui se voit accompagné par le crâne du taureau qu'il a tué. Sculpture de peintre, forme déchiquetée, mal éclairée au centre Pompidou de l'artiste hollandais Willem de Kooning, mais mouvement saccadé, découpé, taillé dans le vif qui nous atteint au plus profond. Au centre Pompidou, ils ne savent pas éclairer les sculptures. Hommage de Zadkine à Van Gogh vers 1956, modelé ici en train d'affronter le soleil arlésien et où l'émotion dépasse par son intensité la rigueur des formes habituelles du cubisme. C'est en Afrique que l'on a découvert cette sculpture du sculpteur Akati Ekplekendo de l'ethnie Fon. Elle représente le dieu du fer et de la guerre. Je ne sais si le sculpteur couturier la connaissait, mais il l'aurait admirée. Justement, couturier, avec son homme qui ne marche pas. Et puis ensuite, le berger, c'est la sculpture qui m'a fait devenir sculpteur. Toujours de couturier, le soldat à droite et à gauche, la femme qui marche, de 1947. Voici le maréchal Leclerc du sculpteur Raymond Martin à la porte d'Orléans, qui se trouve ici où se trouve magnifiée la marche de l'armée d'Afrique depuis le Tchad jusqu'en Allemagne. C'est une sculpture qu'il faut aller voir de près. Malheureusement, elle est très haut placée, mais c'est une chose tout à fait remarquable. Il a été mon professeur à un moment, Raymond Martin. La démarche du général de Gaulle par Jean Cardot, démarche militaire, démarche politique, marche sur les Champs-Élysées avec cette scansion si particulière de la sculpture. Pour terminer cette excursion, je vous propose encore trois œuvres de moi, cette gravure au burin montrant un arpenteur essayant de mesurer l'espace incohérent du monde où nous sommes. Cette vue de mon atelier, avec en premier plan le voyage d'hiver, en hommage à Schubert, se frayant un passage au milieu de mes sculptures. Et pour finir, cette sculpture en bronze, le voyageur, qui malgré son absence de tête, tente de quitter son socle.
Eh bien, merci pour cette... Merci, Monsieur Abeille, pour cette présentation sur la présence physique et charnelle de l'homme dans ce panorama de l'homme qui marche de la plus haute antiquité jusqu'à nos jours. On aurait pu y rajouter, évidemment, plein d'images.
Oui, beaucoup, beaucoup.
Je pense, bien sûr, à cet homme qui marche futuriste qui montre tellement le mouvement et encore plus proche de nous, peut-être, les artistes du Land Art. Vous savez, ces artistes qui arpentaient la nature et dont le travail, certes évanescent, mais montrait justement cette marche auprès des objets les plus simples, des morceaux de bois et des pierres. Merci pour cet univers des formes, ce regard à la fois analytique et subjectif, sans doute que Malraux aurait aimé, par ces rapprochements qui vous sont très personnels et qui nous donnent bien une idée de ce que c'est que cet homme qui marche, sujet d'une exposition d'ailleurs au Musée Picasso ou à la Fondation Mac, je ne sais plus très bien, mais dans le Sud, qui allait justement jusqu'à Giacometti et plus contemporains encore. Est-ce que vous me permettez simplement de vous poser deux questions? Je sais que je vous avais promis que les questions seraient à la fin, mais là, je ne peux m'empêcher de vous demander deux choses. Vous parliez tout à l'heure que vous aviez rencontré une certaine usure de la représentation. Est-ce que vous pouvez nous expliciter un tout petit peu ces mots qui sont si beaux?
Oui et non, c'est un peu difficile, mais là, on est dans les années 50-60, et je sors de l'école, et ce que je vois, c'est essentiellement l'art abstrait, donc la galerie Denise René, mais d'autres, enfin, on est dans l'abstraction géométrique, l'abstraction lyrique, Mathieu de Soulages, mais d'un autre côté, il y a la réalité poétique, il y a Bernard Buffet, enfin, c'est toutes ces choses-là. Et moi, je me suis pas senti attiré ni par l'un ni par l'autre. Voilà. J'appelle ça une usure pour moi.
Oui, bien sûr.
Si vous voulez. Alors, je peux dire une chose simplement. Quand moi je fais une sculpture ou quand je vais dans un musée et que je m'attache seulement aux œuvres qui, en quelque sorte, me regardent. Voilà. Je vois et puis il y a une œuvre qui me regarde. De même, dans mon atelier, une forme me regarde. À ce moment-là, je m'en occupe et j'essaie de l'exprimer. Mais quand ça ne me regarde pas, en quelque sorte, voilà. Et donc, l'art abstrait ne me regardait pas. Et ce que je voyais de l'art figuratif ne me regardait pas non plus. C'est pour ça que je me suis attaché à trouver une autre approche par vêtement, qui est, au fond, un masque. Mais c'est ce masque qui nous exprime aussi.
Et ma deuxième question, mais parce qu'elle est tellement spécifique à la sculpture, je ne peux pas m'empêcher de vous la poser maintenant, c'est l'importance de la sculpture dans l'espace public. Vous parliez de l'homme qui marche, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à l'espace environnant. Comment vous appréhendez la présence de vos sculptures dans l'espace public ?
Ah ben ça pose un problème assez compliqué parce que il fut un temps où on mettait les sculptures tout à fait dans des socles très hauts pour éviter qu'on les abîme. Là, je suis très terre-à-terre, au XIXe siècle. Puis ensuite, moi, j'ai eu l'expérience de faire un marbre de Carrare, hein, qui j'avais mis à portée de main parce que c'était après 68 et qu'on disait l'art pour tous. Et le lendemain de la pose, le marbre était couvert de tags. Alors, on l'a repeint en blanc sur le marbre, mais de nouveau, il y a eu des tags. Donc maintenant, mon œuvre peut très bien être une sorte de palimpseste. Enfin, on va trouver toutes les époques de tags plus la peinture. Donc, pour ma part, j'ai une sorte de réflexe un peu contre ça, et c'est dommage parce que, en effet, l'art est fait pour tout le monde et devrait être fait pour la ville, pour le public, comme le fait Rougemont. Il a raison de le faire. Moi, j'avoue que je me suis arrêté à ça.
Merci beaucoup.
Vous venez d'entendre la communication du sculpteur Claude Abeille, L'homme qui marche, prononcée le 28 novembre 2012 dans le cadre d'une journée à l'Académie des Beaux-Arts. Écoutez les autres interventions de ses confrères et les débats qui ont suivi, menés par Guy Boyer, rédacteur en chef de Connaissance des Arts, en tapant sur le moteur de recherche de Canal Académie les noms de François Bernard Mache pour la musique, François Chalin pour l'architecture, Bernard Perrine pour la photographie et Pierre Caron pour la peinture.